RCI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 5h. Ici, vos chansons françaises préférées. La Rousseau, tu m'oublieras, la chanson préférée de Laurie.
C'était notre chanson préférée avec ma meilleure amie. On la chantait tout le temps derrière le collège. On faisait des chorégraphies sur ses chansons et tout. Après, pour ses anniversaires, ses mariages, j'avais changé les paroles de cette chanson-là pour lui chanter et lui faire une surprise. Enfin voilà, c'est vraiment cette chanson-là, elle nous a suivis toute notre vie.
Vous aussi, vous aimez La Rousseau ? Écoutez ici.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Notre objectif chaque semaine, vous redonner du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, on va faire nos courses ensemble avec cet objectif dépenser moins sans renoncer, autant que faire se peut, à se faire plaisir. Et on va vous dire comment faire avec notre invité. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au mensuel 60 millions de consommateurs. Je vous propose pour commencer de répondre à cette question.
Bonjour, je m'appelle Laurence et je me demandais si les prix sont les mêmes partout, ou à peu près les mêmes, ou s'il y a de vraies différences entre les supermarchés.
Ah, une vraie question concrète pour commencer, Lionel. C'est vrai, les prix changent d'un supermarché à l'autre ou alors ça se joue dans un mouchoir de poche ?
Ben, j'ai envie de répondre un peu les deux. C'est-à-dire que évidemment, y a une concurrence et ça dépend de la ville où vous habitez. Plus vous avez d'hypermarchés et de supermarchés dans votre ville, plus les prix seront bas. Ah oui. Ils se font une vraie concurrence. Par contre, la concurrence, elle porte sur les très grandes marques. Les Nutella, les Pampers, les Camembert Président. Alors là, ils se font une bataille concurrentielle infernale, si bien que on peut avoir le sentiment que ces produits-là sont un peu au même prix partout. En revanche, ils se rattrapent sur tous les autres produits.
Donc ça se joue finalement un peu partout, et c'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver. Il faudrait presque faire plusieurs supermarchés, quoi.
Alors, il faut faire plusieurs supermarchés pour bénéficier des... Mais on en parlera plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même fait des études comparatives. Et quand Leclerc dit qu'il est le moins cher, on a pu le vérifier. Donc, Leclerc est 7% moins cher que la plupart de ses concurrents.
Ah, c'est pas rien quand même.
Ouais. Et on peut dire qu'il est le moins cher sur les grandes marques. Et à peu près sur tout le reste, à l'exception des rayons qu'on appelle du marché, c'est-à-dire poissonnerie, viande. D'accord. En fruits et légumes, par exemple, c'est Carrefour le moins cher. Ça dépend des rayons, mais globalement, Leclerc est le moins cher. Avec Lidl, mais Lidl on l'a pas étudié parce que c'est pas un hypermarché.
Il se
tire vraiment la bourre. Et effectivement, pour ce qui concerne Lidl, d'ailleurs pour répondre à Laurence, les prix chez Lidl sont partout les mêmes, ce qui est pas le cas chez Leclerc.
Ah ben ça c'est bon à savoir. Merci Lionel Mauguin. Dites-moi, les prix sont à la hausse ou à la baisse ces derniers temps dans les supermarchés ?
Alors, ça dépend de jusqu'à quand vous remontez, mais vous savez bien qu'on a connu une vague inflationniste terrible de 20% entre janvier 22 et janvier 24. Depuis cette période, les prix ont rebaissé de 6%, si bien qu'on n'a pas récupéré les prix d'avant, et les prix dans les supermarchés, les hypermarchés restent quand même à des niveaux très élevés.
Bon, notre objectif dans cette émission, c'est de redonner du pouvoir aux gens, à ceux qui nous écoutent, du pouvoir d'achat, bien sûr. On prend le chariot ensemble, Lionel, on pousse les portes du supermarché, enfin on les pousse, elles s'ouvrent toutes seules, évidemment. On fait quoi ? On y va au feeling, on regarde un peu ce qui se passe, ou alors on a anticipé avec une liste bien précise de courses ?
Alors, si vous avez l'objectif de réduire, de faire des courses avec le souci de faire des économies, il faut avoir préparé une liste de courses, c'est-à-dire il faut avoir programmé les repas que vous allez faire durant la période de la semaine si vous faites les courses hebdomadairement. Donc préparer une liste en fonction des repas que vous allez élaborer. Quand vous êtes dans le magasin, vous fixez sur votre liste. Et l'objectif, c'est que vous achetiez les produits que vous avez notés, essayez de pas vous détourner, même pour des promotions. Si vous n'avez pas noté ça sur votre liste, évitez de céder à la tentation, sauf si vraiment c'est un produit équivalent à ce que vous aviez noté.
Ok. Donc ça, c'est bien préparer la liste. Il faut prendre le temps, du coup, en amont, de bien penser, de réfléchir à ce dont on a besoin pour maîtriser la dépense. En fait, c'est ce que vous dites.
C'est un conseil général.
Ouais, ouais, bien sûr.
C'est un travail, et c'est ça qui est un peu fastidieux. On parlera des promotions tout à l'heure, mais pour faire ces courses, il faut préparer ce que vous allez acheter. Sinon, ça va déborder, ça, toutes les études le montrent. Si vous venez pas avec une idée précise de ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous voulez acheter, eh bien, vous céderez à la tentation, parce qu'il y a des effets marketing terribles dans les grandes surfaces.
On dit qu'il vaut mieux avoir le ventre vide pour faire ses courses, on me l'a répété plusieurs fois. Vous confirmez ce point-là, Lionel?
Alors non seulement je vous le confirme, mais on a retrouvé une étude américaine qui montre que les gens qui font leurs courses alors qu'ils n'ont pas mangé, ils achètent 20% de produits en plus.
Ouais, et en plus j'ai dit une bêtise, j'ai dit il vaut mieux avoir le ventre vide. Non, il vaut mieux ne pas avoir le ventre vide en fait.
Exactement. Faites vos courses en ayant mangé, parce que sinon, si vous avez faim, vous allez acheter 20% de produits en plus.
C'est énorme.
C'est énorme, et en plus, ce seront des produits plus sucrés et plus gras, montre cette étude américaine.
Ah ouais, on est gourmand, quoi. On a vraiment envie de se rassasier.
Après, on peut le comprendre tout ça, et c'est logique, mais on a pu le quantifier. Donc voilà, c'est un petit conseil. Évitez de faire ça aux heures de repas, à midi et au dîner.
Alors, Lionel, vous le disiez, c'est vrai que la liste, c'est le top. Mais enfin, même quand on a cette liste, on les voit bien, les appels du pied dans les rayons. Alors, des promotions, écrit en gros, un acheté en offert, offre du jour en énorme. C'est vraiment, généralement, c'est écrit tellement gros que ça nous saute aux yeux. C'est quand même une piste, toutes ces promos, toutes ces offres pour faire des économies?
C'est une piste si vous avez besoin des produits qui sont en promotion. Je rappelle simplement que le terme promotion, ça ne veut pas dire bonnes affaires. Ça veut dire mise en avant, promouvoir. Donc déjà, premier point, et deuxième, et c'est pas forcément des bonnes affaires. Et deuxième point, la plupart des promotions aujourd'hui, malheureusement, sont moins généreuses qu'auparavant. Et bien souvent, il faut, comme vous le dites, acheter trois produits, le troisième est gratuit, le deuxième à moitié prix. Donc c'est quand même des dépenses plus importantes que prévues, peut-être. Et il faudra un stock chez soi. Et il faudra de la place pour mettre toutes ces promotions. Donc, gardez tout ça à l'esprit. Et puis, si possible, achetez en promotion des produits qui sont non périssables. Parce que l'objectif du foyer, et tout le monde le dit, évitons le gaspillage alimentaire.
Évidemment, évidemment. Si vous nous rejoignez, on fait nos courses ensemble aujourd'hui sur votre radio locale ici avec Lionel Mauguin. Il est journaliste à 60 millions de consommateurs et on essaie de vous donner toutes les clés pour dépenser moins, consommer mieux. Lionel, dans la liste des appels du pied, il y a les formats familiaux. Alors les formats XXL, format famille, maxi format. Et bizarrement, c'est pas toujours moins cher à la fin.
C'est pas moins cher parce que d'abord, la plupart de ces formats sont fabriqués exclusivement, la plupart du temps, pour un distributeur. Le fournisseur, il fait un produit pour Intermarché, une promo pour Leclerc, ça s'appelle la coopération commerciale, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, encore une fois, c'est de la promotion, c'est de la mise en avant. Ça veut pas dire que c'est une bonne affaire. Et donc, le seul critère qui vaille face à ces produits, c'est le prix au litre et au kilo.
Voilà, ça c'est le repère si on veut comparer ce qui peut l'être.
Si vous trouvez en rayon le même produit avec un format moins familial et moins économique, mais qui est moins cher au litre et au kilo, vous avez fait le calcul, quoi.
Donc c'est écrit en petit, par contre, hein. Faut un petit peu, faut mettre ses lunettes parfois.
Oui, mais c'est obligatoire. Ouais. Et effectivement, c'est très gênant pour les enseignes. Hein. C'est devenu obligatoire il y a quelques décennies, mais ça doit rester le seul critère qui vaille. C'est valable aussi pour les produits vendus par l'eau, bien souvent, et ça, on en a des témoignages régulièrement. Les deux paquets de café sont moins chers au kilo que l'unité. C'est quand même bizarre. Et ça s'explique parce que la marque de café à l'unité est tellement bataillée au niveau de la concurrence que les directeurs de magasins mettent le prix du produit à l'unité à un tarif très bas et oublie de rectifier les produits par l'eau.
C'est dit gentiment.
Ce qui donne ces aberrations en rayon.
Parfois, il y a des erreurs sur les étiquettes. On voit écrit, par exemple, 19 euros le kilo pour tel produit, et puis en fait, on le paye 21 euros le kilo. C'est pas non plus extraordinaire qu'il y ait des erreurs.
Oui, alors, s'il y a une erreur, c'est-à-dire que si vous voyez en rayon un prix affiché et si en caisse il passe plus cher, alors là c'est pas du tout normal et vous avez le droit, hein, il y a un article 211.1 du code de la consommation qui vous permet de demander de payer le prix le moins cher, c'est-à-dire le prix affiché en rayon. Donc ça, et si le magasin n'obtempère pas, ce qui serait quand même surprenant, mais enfin bon, sait-on jamais, et ben là vous faites un signal conso et je vous assure que les agents de la répression des fraudes débarquent.
Ah oui, carrément, ouais. C'est pris très au sérieux.
Oui, oui, parce que c'est une infraction sur le prix. Les erreurs, ça arrive, mais n'en soyez pas victime, vous pouvez faire quelque chose.
Une auditrice d'ailleurs, Lucie, m'avait écrit sur Paris Ici les économies @radiofrance.com pour me dire qu'elle utilisait la scanette, elle, tout simplement, pour voir en live, vous savez, le petit truc où on scanne nous-mêmes les produits, et donc elle voyait le prix affiché pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, et elle m'a dit qu'elle en trouvait régulièrement. Lionel Mauguin, est-ce que les marques distributeurs se valent en termes de qualité par rapport aux grandes marques? C'est un bon plan budget, ça?
Alors, oui, parce que d'abord, un produit sur deux qu'on met dans le chariot, c'est une marque de distributeur aujourd'hui. Donc, parce qu'elles sont 20 à 30% moins chères. Donc, quelle est leur qualité au niveau... est-ce que la qualité prix est équivalente aux grandes marques? Nous, on a fait une étude comparative entre MDD, marque de distributeur, elle-même. Donc, ce que je pourrais vous donner comme information, c'est quelles sont les meilleures marques de distributeurs selon nos comparatifs. Eh bien, on a trouvé que Auchan et Lidl s'en sortaient mieux que les autres au niveau de la qualité de ces marques de distributeurs qui sont globalement 20 à 30% moins chères. Et pour considérer que ça dépend évidemment des produits, mais c'est des équivalents qui sont tout à fait valables en ce qui concerne en tout cas ces deux enseignes.
Un sport, j'allais dire national, quand même pas, mais enfin, les codes promo, les cartes de fidélité, enfin voilà, il y a tout un tas de d'astuces comme ça, de mécanismes pour faire des économies, les coupons, tous ces trucs-là. Ce que vous dites, c'est oui, ça marche, mais ça demande du temps.
Ah bah oui, ceux qui sont quasi professionnels de ça le savent bien, c'est que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut imprimer les coupons, donc il faut passer du temps sur les catalogues de toutes les grandes surfaces. Ensuite, il faut traquer la promo et donc faire 3, 4, 5, 6 magasins pour aller chercher uniquement les promos. Donc, mais effectivement,
on y gagne.
Ouais, on y gagne beaucoup, mais on a passé énormément de temps à ça.
Ouais, et puis c'est important d'avoir au moins une carte de fidélité quand on a des habitudes quelque part, parce qu'on cagnote et c'est bien quand même ça.
Alors moi, je conseille, il faut avoir plusieurs cartes de fidélité,
oui,
le terme de fidélité mais évidemment, sur votre carte, vous cagnotez. Et donc, pourquoi se priver d'une carte de fidélité si vous allez régulièrement dans un magasin? Et donc, prenez toutes les cartes, elles sont gratuites.
Et n'oubliez pas de récupérer les cagnottes, c'est en ce moment-là, hein, généralement jusqu'au 31 mars. Donc, regardez selon votre enseigne. On va accueillir Julien Cadio pour parler d'une initiative. Bonjour Julien.
Bonjour Valère, enchanté
également, bienvenue sur notre radio locale ici. Vous êtes directeur marketing et commercial de Bibot. C'est quoi Bibot?
Eh bien écoutez, Bibot, c'est une machine qui est placée en entrée de magasin et qui va valoriser un geste éco-responsable en donnant du pouvoir d'achat. En gros, pour la faire simple, Bibot a pour mission de diminuer finalement le nombre de bouteilles plastiques qui sont usagées, qui sont pas recyclées. On se parle à peu près de 5 milliards de bouteilles qui sont aujourd'hui pas recyclées, c'est presque une bouteille sur deux. Et en fait, le parti pris de notre solution, c'est de se dire... on va, au lieu de pénaliser quelqu'un qui fait mal, on va valoriser quelqu'un qui fait bien. Et donc concrètement, comment ça se passe? Ce sont des machines qui sont aujourd'hui en hypermarché et en supermarché, sur les parkings ou en entrée, dans le sas d'entrée. Et en fonction du nombre de bouteilles que le consommateur va ramener et recycler dans cette machine, bouteille qui va être transformée en paillettes, il va obtenir deux types de bons de réduction. Un premier type de bons de réduction, c'est de valoriser le nombre de contenants qu'il aura recyclés. On va valoriser entre 1 centime et 5 centimes le contenant.
Okay.
Donc s'il met 10 bouteilles par exemple, il va gagner entre 10 et 50 centimes. Et en plus, on y a agrémenté le financement d'industriels, puisque tous les mois, on a des marques partenaires industrielles qui vont aussi valoriser ce geste en donnant, en plus de ce premier bon de réduction, 3 à 4 bons de réduction sur leur marque. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est Yop qui donne 30 centimes sur sa bouteille, c'est Petit Navire qui donne 60 centimes pour l'achat de deux de ses produits, ou 50 centimes sur les marques Galbani. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que, parce que j'ai fait un beau geste éco-responsable, je commence mes courses avec 2 euros dans la main.
Ok, donc c'est fin du monde et fin du mois en même temps, si je comprends bien.
Exactement, on arrive à mêler les deux.
On vient avec les bouteilles en plastique, on les met dans votre machine, elles sont réduites, ça permet du coup de les envoyer après dans une filière de recyclage, j'imagine, et puis en échange, donc, on a des bons d'achat pour le magasin et éventuellement des marques. J'ai bien résumé ?
Mais c'est exactement ça, et ce qui plaît en fait, c'est que d'un côté, le consommateur, bah, il est valorisé de son geste éco-responsable à travers le pouvoir d'achat, le distributeur, lui, il gagne du flux, et nous, Bibot, qui est notre mission première, qui est de mieux recycler, bah, on recycle mieux, et par exemple, on a recyclé 500 millions de bouteilles en 2025.
Et on vous trouve dans beaucoup de supermarchés ou hypermarchés ?
Alors, on a 7 ans, et aujourd'hui, on est dans à peu près 1000 à 1200 points de vente. On en équipe à peu près entre 30 et 50 par mois de ces machines. Donc, globalement, dans toutes les enseignes que vous connaissez.
Voilà, c'est une initiative dont on voulait vous parler. Si vous allez dans votre super ou hyper et que vous voyez ces machines, donc c'est Bibot et le site internet c'est b-bot.com. Merci beaucoup Julien Cadio, je le rappelle, vous êtes directeur marketing et commercial donc de Bibot.
Ici, avec Valère Coréard, par ici les économies.
On est en version magazine le samedi. Le thème aujourd'hui, faire ses courses au supermarché sans se ruiner. Lionel Mauguin, vous êtes journaliste au mensuel 60 millions de consommateurs, fan de musique. Et Karine Mangiante, vous êtes fondatrice de l'appli Cookmate. Bienvenue et bonjour.
Bonjour.
C'est quoi Cookmate ?
Alors Cookmate est une application qui permet de regrouper toutes ses recettes préférées au même endroit, dans un compte privé ou dans son application. Donc on peut y ajouter ses recettes familiales ou chercher des nouvelles idées de recettes sur Internet, les enregistrer dans son espace privé, prendre en photo des recettes qu'on a trouvées dans des magazines ou des livres de cuisine. On peut aussi demander à une IA de nous créer des nouvelles recettes.
D'accord.
Donc ça remplace en fait tous les vieux carnets de recettes qu'on utilisait avant.
Et en quoi votre application peut nous aider à faire des économies alors ?
Alors on peut planifier ses repas, donc établir une liste de courses et du coup éviter les achats inutiles ou en double au magasin. On peut aussi aider à trouver des recettes à partir de ce qui nous reste dans le frigo par exemple, et ça nous permet donc de réduire le gaspillage alimentaire.
Ouais, ça je trouve
donc,
ça super.
On achète moins, on achète plus. Enfin, je veux dire, on achète moins, plus juste, on jette moins, on fait des repas maison qui sont meilleurs.
Voilà, cuisiner maison, anti-gaspi, planifier les courses, ça c'est tout ce qu'on aime. Alors, on a compris que ça pouvait nous aider à faire des économies, ça s'appelle Cookmate. Est-ce qu'il faut s'abonner ? Est-ce que c'est un budget en plus pour bénéficier de vos services ?
Non, pas forcément. On peut l'utiliser gratuitement. Il y a une version donc limitée. Ensuite, si on a beaucoup de recettes qu'on veut utiliser, des nouvelles fonctionnalités, ben on peut s'abonner. Mais on peut tout à fait l'utiliser gratuitement.
Et on peut découvrir ça sur votre site internet, tout simplement, pour comprendre les fonctionnalités et découvrir votre univers. Vous pouvez nous le rappeler ?
C'est cookmate.online.
Un grand merci, c'est Cookmate donc, et vous êtes Karine Mangiante, la fondatrice de cette application, et donc cookmate.online pour vous retrouver. Par ici les économies @radiofrance.com, c'est le mail si vous voulez nous écrire, participer à l'émission, vous êtes les bienvenus. Lionel, rapidement, toutes ces applications, quel est votre regard dessus pour nous aider un peu à planifier, à mieux cuisiner, tout ça?
Ben c'est des conseils qu'on peut faire effectivement. Nous on conseille aussi de faire du drive puisque l'objectif c'est de maîtriser le budget. Sur le drive, vous voyez le panier augmenté en temps réel. Donc si vous voyez que ça dépasse un peu votre budget, vous pouvez retirer plus facilement qu'en magasin un produit. Il y a aussi des recettes qui sont proposées par la plupart des enseignes. Donc là encore, vous pouvez mettre les éléments de la recette dans votre panier et puis bénéficier des promotions qui existent dans le magasin. Oui.
Moins de tentation, le drive, on est derrière notre ordi, on est posé, on prend le temps et on fait attention à pas dépasser le budget, comme vous le disiez, ça c'est vraiment malin. Il y a la livraison aussi qui se développe.
Il y a la livraison et il y a même moi je pense à Picnic, une enseigne hollandaise là qui propose des prix de grande surface, livraison gratuite dans des petits camions électriques. Donc ça c'est sympa. Il y a La Fourche aussi pour les gens qui aiment bien les produits bio.
Supermarché anti-gaspi,
qui est pas trop cher. Ouais. Donc oui, il y a des solutions économiques
en ligne aussi. Lionel Mauguin, vous êtes journaliste au mensuel 60 millions de consommateurs. Avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz le vrai faux, pour finir avec les idées claires sur ce thème des courses au supermarché. Alors vrai ou faux, les prix sont quasiment les mêmes d'un supermarché à l'autre?
C'est faux. y a de la concurrence, sauf sur les très grandes marques où on retrouve les mêmes prix. Oui.
Faire ses courses sans liste coûte en moyenne plus cher, c'est vrai ou faux, Lionel ?
Oui, faire ses courses sans liste, c'est s'exposer à des achats compulsifs de promotions dont on n'a pas besoin.
Les promotions du type un acheté, un offert font toujours et systématiquement économiser de l'argent, vrai ou faux ?
Faux. Et d'autant plus faux si vous n'avez pas besoin du produit qui est en promo et que vous avez été juste atterré par une grande affiche.
Autre question, c'est un peu sur le même registre, hein, Lionel. Les formats familiaux XXL sont toujours plus économiques que les petits formats.
Ça dépend, il faut regarder le prix au litre au kilo.
Si c'est en petit, on met les lunettes, mais on vérifie, absolument. Les marques de distributeurs sont forcément de moins bonne qualité que les grandes marques, vrai ou faux ?
Ça dépend des produits, mais pas forcément vrai. On peut trouver des MDD et des MDD haut de gamme tout aussi sympas à déguster que les grandes marques.
MDD, marque de distributeur, donc. Hein, les rayons de date courte sont un bon plan pour réduire la facture, vrai ou faux ?
Vrai, c'est quand même des bons plans, ça s'est beaucoup développé. Attention, il y a quand même des arnaques. Il y a certains distributeurs qui profitent pour faire des fausses promos en boostant le prix de référence artificiellement.
Lionel Mauguin, vous êtes journaliste au mensuel 60 millions de consommateurs. Un grand merci pour vos éclairages. Ça va nous aider. J'espère que vous y voyez plus clair, en tout cas vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici. Pour réécouter l'émission, la partager aussi, c'est sur ici.fr. La semaine prochaine, on va faire le point sur nos assurances. Ça va être un gros dossier. Hein.
Vous écoutez ici.
Vous écoutez Ici.
Ici.
Tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Et toi le dieu de mon ciel. Fini ce bordel. Hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne te rappelle. Regarde mes lèvres, qui invitent les tiennes. C'est notre lune de miel, et tant. Pour quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux, et toi le dieu de mon ciel.
apprécié un épisode du podcast Ici, Pierre Bellemare, ses histoires extraordinaires. Un podcast Ici.
Carlos Terraza, un des mineurs de l'armée colombienne, s'accroupit au pied d'une femme assise sur un tabouret au milieu de nulle part. « Ça va prendre du temps, Elvira », lui chuchote-t-il à l'oreille. « Mais quoi qu'il arrive, reste calme, hein ?» Elvira Cortés, une belle brune d'une quarantaine d'années, acquiesce d'un imperceptible battement de cils. Un gros collier en plastique emprisonne son cou. C'est un tronçon de tuyau soudé sur le devant, un de ceux qu'utilisent les plombiers. Seule différence, celui-là est bourré de 2 kilos d'explosifs et il est muni d'un détonateur. Avant de décider de faire quoi que ce soit, Carlos Terraza doit identifier la nature et le mode de fonctionnement du mécanisme. À l'aide d'un stéthoscope, il ausculte le boîtier. Mauvaise nouvelle. C'est un détonateur télécommandé. Une fréquence radio a été enregistrée. Pour actionner la charge à distance, il suffit d'émettre de loin un signal analogue. Je vais essayer de le désactiver, mais... Terraza ne termine pas sa phrase. C'est inutile. Elvira a compris. Elle ferme les yeux. Sa respiration s'assagit. Son esprit s'échappe. Et des flots de souvenirs submergent sa mémoire. 25 ans. 25 ans déjà. En 1965, à peine sortie de l'adolescence, elle avait fait la connaissance d'Eduardo Parra, un jeune mécanicien. Entre la fille de paysan pauvre et l'ouvrier, le coup de foudre avait été violent et réciproque. Elvira avait été néanmoins contrariée par le comportement inexplicable de son amant. En effet, plusieurs fois par an, prétextant une visite lointaine à des parents malades, il disparaissait pendant une vingtaine de jours. Soupçonnant l'existence d'une rivale, Elvira l'avait sommé de s'expliquer. « Depuis 2 ans, je vais m'entraîner dans les rangs des FARC, des forces armées révolutionnaires colombiennes », avait confessé le jeune homme. « Je vais y retourner pour me battre à plein temps. Tu ne me verras plus beaucoup. » Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Elvira accepte la situation et se contente de retrouver son compagnon clandestinement 2 ou 3 fois par an. 5 années s'écoulent. Mais au fil des ans, les guérilleros d'origine, pétris d'idéaux et de bons sentiments, se sont transformés en narcotrafiquants. La cocaïne et l'argent ont perverti leur cause. Et face à cette dérive, Eduardo se révolte et rend les armes. Dès lors, l'existence de la famille pourrait être paisible si les guérilleros n'avaient décidé de punir la désertion de leur ancien camarade. Une nuit, ils font une incursion dans sa maison et le passent à tabac. « Tu nous as trahis. Si tu ne nous verses pas 150 000 pesos dans un mois, nous reviendrons et nous tuerons ta femme. » Eduardo ne cède pas. Comment pourrait-il accepter de se faire rançonner par ceux qui ont dévoyé la cause révolutionnaire? Mais malheureusement, les guerrilleros tiennent parole. Ils reviennent, capturent Elvira et lui fixent une charge explosive autour du cou. Le front et les joues baignés de sueur, Elvira remue faiblement les lèvres. « As-tu des enfants, Carlos ?»« 4 », répondent des mineurs. « Alors, dans ces conditions, laisse-moi seul et rentre chez toi. » Eduardo consulte sa fin du regard, comme s'il lisait un livre ouvert dans ses pensées. « As-tu une autre solution pour désamorcer la charge ?» demande-t-il aux des mineurs. « On pourrait découper le tuyau avec une scie à métaux. On aurait alors une chance sur 1 million pour que l'engin... ne nous explose pas au visage. Eh bien, va me chercher une scie et fais évacuer le village. » Une chaîne de télévision a filmé l'événement en direct. Des milliers de téléspectateurs ont ainsi vu la fine lame d'acier entamer le plastique du tuyau millimètre par millimètre. Ils l'ont vu pénétrer ensuite dans une masse grise et pâteuse pour ressortir de l'autre côté. Puis, stupéfaits, ils ont vu l'homme détacher un collier noir du cou de sa femme et le lancer de toutes ses forces le plus loin possible. Avant que l'explosion ne leur fracasse les oreilles, ils ont vu l'homme se ruer sur sa compagne, la renverser dans la poussière et faire rempart de son corps pour la protéger. Mais durant les 20 minutes qu'a duré la transmission, ont-ils suffisamment observé le regard étrangement calme et confiant d'Elvira Parra? Ont-ils apprécié la détermination farouche de son mari? Ont-ils compris qu'ils livraient ensemble leur plus beau et leur plus périlleux combat?
Ici.
Ici. Écoutez ici.
Ici.
Tous les jours, rien que nous. On était là par amour comme toujours. Entre nous c'était fou, s'aimer là. Rendez-vous pour toujours. Et moi je rêve, rêve, rêve tous les soirs de toi qui prie, qui dit qu'il ne nous arrivera rien. J'envoie des prêts aux yeux du ciel pour qu'il envoie.
Aux étoiles, on était là, maladresse d'autrefois. Sans savoir, sans y croire, on laissait là nos souvenirs d'autrefois. Et toi, tu rêves, rêves, rêves tous les soirs de moi qui prie, qui dit qu'il nous arrivera rien. J'envoie des braises qui vont au ciel et qui vont voir.
Vous fait écouter l'actu locale du bout du monde grâce aux médias francophones publics. C'est l'accent des autres.
Voici l'actualité de ces derniers jours avec la radio-télévision suisse, avec RFI, Radio-Canada, ici et la RTBF. Et on va d'abord revenir un instant sur ce drame qui s'est joué cette semaine au Canada. Nadi Mobarak, le pays est en deuil.
Oui, puisque 9 personnes ont été tuées et au moins 25 autres ont été blessées dans une fusillade en Colombie-Britannique dans l'ouest du pays.
Tamatave, la deuxième ville de Madagascar, ravagée mardi soir par un cyclone. Nicolas Sûr, il aura été d'une intensité exceptionnelle.
Oui, des vents soufflant jusqu'à 250 km/h ont détruit les trois quarts de cette cité de 400 000 habitants. Il y a une quarantaine de morts.
En Suisse, cette décision du gouvernement cette semaine, il va apporter une aide financière aux victimes du drame de Cran, Montana, Pierre Enchauffin.
Il s'agit d'aller vite sans attendre le temps long de la justice pour indemniser les victimes de l'incendie et leurs familles.
Ça y est, la région bruxelloise voit enfin le bout du tunnel. 613 jours après les élections de juin 2024 en Belgique, 7 partis ont réussi à conclure un accord de gouvernement, Jacques Crémers.
Oui, et cet accord, il est intervenu à l'issue d'un conclave qui a duré 3 jours et 2 nuits, et la formule a payé puisque 3 partis francophones et 4 partis néerlandophones se sont mis d'accord sur des projets pour Bruxelles et 1 milliard d'économies à réaliser d'ici 2029.
Enfin, nous nous quitterons le long des voies de chemin de fer en Champagne-Ardenne en France, parce que là-bas, 18 gares sont à louer par la SNCF. Le rail français entend dynamiser ces lieux ou leur donner une seconde vie. Le Canada toujours sous le choc en cette fin de semaine, c'est l'incompréhension après la tragédie qui a frappé mardi la communauté de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, Nadi.
Effectivement, 6 personnes ont perdu la vie dans une fusillade, 5 élèves âgés entre 12 et 13 ans, ainsi qu'une éducatrice de 39 ans mardi après-midi dans une école. 2 autres victimes, que la police indique être la mère et le demi-frère de la suspecte, ont été retrouvées dans une maison. Selon les autorités, la tireuse présumée qui s'est enlevée la vie est Jessie Van Rootselaar, 18 ans. Née de sexe masculin, elle avait amorcé une transition pour devenir une femme il y a environ 6 ans. Elle était connue des policiers. Voici le caporal Alex Bérubé de la Gendarmerie royale du Canada.
La police avait été sur les lieux au printemps dernier pour des raisons de santé mentale. On sait que la personne avait des armes à feu à sa possession à ce moment-là. Les armes ont été saisies en vertu du code criminel. Suite à la fin de l'enquête, ces armes à feu lui avaient été retournées de façon légale.
La police n'est pas encore en mesure d'expliquer les raisons qui ont pu motiver cette tragédie.
Et on s'en doute, Nadi, les réactions sont vives.
Oui, à commencer par toute la classe politique canadienne, le premier ministre Mark Carney, qui a annulé un déplacement en Allemagne en raison du drame, a exprimé ses condoléances envers les victimes et leurs familles.
Au nom de toute la population canadienne, j'offre mes prières aux victimes, à leurs familles, à leurs amis.
La tragédie a aussi suscité de nombreuses réactions partout dans le monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron ont été parmi les premiers à réagir. Le roi Charles III, qui est aussi chef d'État du Canada, s'est dit profondément choqué par cette tuerie.
Et cette fusillade, elle ravive aussi des souvenirs douloureux. D'autres drames du genre ont touché le Canada au cours des dernières décennies.
Tout à fait. Même si les tueries de masse sont rares et beaucoup moins fréquentes au Canada qu'aux États-Unis, elles demeurent gravées dans la mémoire collective. Celle de Polytechnique à Montréal en 1989 avait fait 14 victimes, la pire à survenir en contexte scolaire. Et puis la tuerie de Portapique en Nouvelle-Écosse en 2020 avait coûté la vie à 22 personnes, la pire de l'histoire du pays.
Un spectacle de désolation à Tamatave. Il s'agit de cette ville portuaire sur la côte est de Madagascar, une ville ravagée après le passage du cyclone Gezani cette semaine. Nicolas, une ville détruite à 75%, 75%, où l'on dénombre une quarantaine de morts.
Dans la capitale économique de Madagascar, qui est aussi le premier port de l'île, le passage du cyclone avait été préparé depuis 2 semaines. Message d'alerte aux populations, prépositionnement de vivres, mais ça n'a pas suffi face à des rafales de vent qui ont atteint dans la nuit de mardi à mercredi les 250 km/h. Tout a été détruit. Les chiffres donnent le vertige. 250 000 sinistrés, 90% des toitures envolées, des maisons en terre battue réduites à des amas de boue, des arbres abattus par centaines dans les rues d'une ville jusqu'ici verdoyante.
Et donc on l'a compris, Nicolas, le cyclone Gezani aura été d'une rare intensité.
Oui, le centre météorologique régional spécialisé en cyclones de l'île française de La Réunion évoque l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire. En atteignant Tamatave, Gezani aurait eu une violence comparable à celle du cyclone Geralda qui avait fait au moins 200 morts en février 1994. La dépression s'est nettement affaiblie en touchant terre, mais même rétrogradée au stade de tempête tropicale, elle engendre d'importants risques d'inondation. Elle devrait par ailleurs regagner en intensité en rejoignant le canal du Mozambique. Face au désastre, le président malgache Michael Randrianirine, arrivé au pouvoir en octobre après la chute d'Andjrad Zoel, a lancé un appel à l'aide internationale. La situation actuelle, dit-il, dépasse les capacités de Madagascar à elle seule.
Les suites en Suisse de l'incendie de Crans Montana. À présent, le gouvernement suisse veut apporter une aide rapide aux victimes après ce drame qui s'est joué au bar Le Constellation. C'était lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, Pierron.
Une mesure rare au niveau de la Confédération qui s'explique par le caractère exceptionnel du drame qui a fait 41 morts et 115 blessés. Pour aller vite, le Conseil fédéral élabore une loi urgente que le Parlement devra traiter début mars. Pour l'instant, aucun montant n'est articulé, mais l'aide fédérale viendra en complément de celle des cantons et des assurances.
Oui, cela dit, Pierron, vu la répartition des tâches entre les trois niveaux, communal, cantonal et fédéral, la Confédération ne joue aucun rôle déterminant dans l'événement et ses suites judiciaires.
C'est vrai, Olivier, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours compris à l'étranger. Que le gouvernement veuille mettre la main au porte-monnaie ne plaît d'ailleurs pas à tout le monde, ce n'est pas le rôle de la Confédération, assure l'UDC zurichoise Barbara Steinemann.
Der Bund.
La Confédération, elle n'est pas fautive. Nous n'avons aucune responsabilité. Si quelqu'un devait verser une contribution de solidarité, ce seraient les responsables de cette catastrophe, à savoir en premier lieu le couple Moretti ou leurs assurances.
Sauf que les tenanciers du bar, s'ils sont au final condamnés par la justice, car ils sont toujours présumés innocents, n'auront certainement pas des moyens suffisants pour indemniser les victimes et leurs proches. C'est aussi une une des préoccupations du Conseil fédéral, dont la démarche est plus que légitime, selon l'avocat Loïc Parent, défenseur de familles touchées.
On a quand même affaire à des circonstances extraordinaires qui appellent à la solidarité. Et je crois qu'on peut être fier en Suisse de voir que la solidarité ne répond pas forcément à la condition d'une faute. Mmh. On a une solidarité qui découle simplement du fédéralisme. Et sous cet angle-là, l'action de la Confédération m'apparaît tout à fait légitime.
Le drame de Crans-Montana s'invite ainsi dans les débats du Parlement fédéral, où cette notion de solidarité devrait s'imposer.
L'accent des autres.
Fumée blanche en région bruxelloise cette semaine, et nous sommes cette fois en Belgique. Il aura fallu que cette partie s'enferme 3 jours et 2 nuits pour s'entendre sur un accord de gouvernement. La crise a duré 613 jours depuis les élections de juin 2024, Jacques.
Et c'est donc cette formule du conclave qui a permis une sortie de crise. Les représentants de cette partie se sont enfermés mardi dans les locaux de la Fondation universitaire, avant d'en ressortir jeudi, un accord entre les mains. Accord entre représentants de 3 partis francophones et de 4 néerlandophones, avec une majorité dans chaque groupe linguistique. 613 jours après les élections, pas de quoi être fier, mais soulagé.
Tout le monde s'est rendu compte aussi de l'urgence. Bruxelles était vraiment au bord du gouffre. Et donc tout le monde, à un moment donné, a eu ce sursaut de responsabilité.
C'est avec soulagement, je dois dire, qu'aujourd'hui, je me dis qu'on a enfin cette feuille de route que les Bruxellois méritent.
Il y aura des efforts à faire. On a voulu que ces efforts soient équitablement répartis, sans asphyxier le tissu social et économique de Bruxelles.
Pas d'asphyxie, mais des économies. L'accord prévoit en effet de réaliser 1 milliard d'économies d'ici 2029, avec à la clé une réforme des administrations, le gel de grands projets comme le métro 3 ou encore plus de sécurité autour des gares. Un accord conclu sous la pression des banques, mais aussi des citoyens bruxellois comme Nicolas Himmlers du collectif Respect Brussels.
C'est une bonne nouvelle pour la région bruxelloise dans son ensemble. Ça va donner un peu une bouffée d'air à beaucoup de gens, je pense. Après, on sait que le contexte financier, budgétaire de la région n'est pas facile. Et donc, les Bruxellois risquent d'avoir des années un peu difficiles devant eux. La mobilisation citoyenne qui s'est structurée ces derniers mois, en fait, ça n'est qu'un début. C'est maintenant que le vrai travail va commencer. Et il est extrêmement important pour nous qu'on se lance dans un processus de réforme institutionnelle en profondeur de la région bruxelloise.
Car de part et d'autre, tant du côté des citoyens que des politiques, plus personne n'a en effet l'envie de revivre pareil scénario, un record de 613 jours sans accord de gouvernement.
Enfin, on va se quitter en France cette semaine avec des gares allouées. La SNCF cherche des locataires pour 18 gares en Champagne-Ardenne, qu'elles soient désaffectées ou occupées. Ces gares cherchent une association ou une entreprise pour investir les lieux. Le dispositif s'appelle Place de la Gare. Il n'est pas neuf et il vise à donner une nouvelle vie à ces lieux ou une nouvelle dynamique. C'est aussi une manière de récupérer un peu d'argent via les loyers. Et pour attirer le chaland, la SNCF mise sur leboncoin.fr, un site de petites annonces. Clément Comte.
Sur le compte de SNCF Connexion, il y a plusieurs annonces, plusieurs gares à louer, c'est assez étonnant. On clique sur celle de Revin, par exemple, dans les Ardennes. Pas de loyer indiqué, mais un texte de présentation comme n'importe quel local. On parle de la surface totale, 259 mètres carrés. Il est précisé que la gare est desservie par des trains TER. Toutes les activités sont envisageables, écrit la SNCF, sous réserve de validation. C'est le cas dans toutes les gares. Et justement, l'association Carré d'Ardennes a été validée. Elle organise des courses dans le département et elle a répondu à cet appel à projet. Depuis une quinzaine de jours, ses membres sont installés dans la gare de Bonny-sur-Meuse.
Au début, c'était un peu particulier, mais non, on a plein d'avantages en fait.
Didier Battistin s'occupe de la logistique pour l'association.
Quand on organise une course ou des événements, les gens peuvent venir en train, stocker leur vélo sur la base vélo qui est déjà en place et pouvoir repartir. Il y a un grand parking devant qui permet de stationner les autres voitures. C'est vraiment l'outil idéal pour nous.
Et c'est tout l'intérêt pour les porteurs de projets. Le côté central des gares. À Reims, par exemple, côté Clermarais, vous verrez dans le hall un atelier de création appelé Keisha. Sa fondatrice, Audrey Houdet, est installée ici depuis un peu plus d'1 an.
Donc c'est au détour de recherches pour de nouveaux locaux où nous sommes tombés sur la proposition d'appel à projet de Place de la Gare. Nous avons écrit un projet que nous avons présenté et puis nous avons été donc retenus parmi d'autres candidats.
Et forcément, un atelier au milieu d'une gare, c'est surprenant.
Je trouve que c'est intéressant, ça apporte quelque chose de nouveau, de différent. En tout cas, moi, ça, ici, c'est un espace culturel qui est créatif, artistique. Et en plus, on parle de mode, de couture. Vraiment, c'est ce qui, je pense, interpelle le plus. Ça dénote avec ce qu'on peut trouver en général dans une gare.
Côté loyer, la SNCF qui choisit ses locataires promet de s'adapter aux finances et aux porte-monnaie de chaque porteur de projet.
Reportage de Clément Comte pour Ici Champagne Ardennes. Voilà qui referme l'accent des autres pour cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dans 8 jours avec les médias francophones publics.
Vous écoutez Ici.
Bonjour, bonjour, février 1992, les JO d'Albertville, le chorégraphe Philippe Découfflé met en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition et 4 ans plus tôt, en 1988, signait le clip du fameux She Drives Me Crazy interprété par les Britanniques Fannion Cannibals que vous réécoutiez ce matin, ici.
Ici, dès 6h,
François-Xavier Canova, Valentine Letesse.
Et le bonheur de vous retrouver dès l'aube à nos côtés. Sachez que l'équipe de votre samedi 14 février est parfaitement opérationnelle. J'entends par là Emmanuel à la rédaction en chef, à la technique c'est Bertrand et Dylan pour vous accueillir au standard en cette matinée de Saint-Valentin. De Valentin à Valentine, il n'y a qu'un pas, Valentine Letesse pour l'actualité aujourd'hui. Bonjour Valentine.
Bonjour François-Xavier, bonjour à tous, ou il n'y a qu'un E plutôt.
Oui, il n'y a qu'un E, c'est vrai. On commence une nouvelle journée de chasse à la médaille aux Jeux de Milan-Cortina.
Et notamment avec les Françaises du biathlon, c'est le sprint.